RMC entre les poteaux,
Georges Quirino.
Salut à toutes et à tous, bienvenue entre les poteaux et les poteaux du jour. Aujourd'hui, Denis Charvet, salut Denis.
Salut Georges.
Ça va?
Impeccable, écoute.
Premier week-end post tournoi destination.
Oui, on s'est régalé avec l'opposition Jalibert-Ntamack, comment en parler.
C'est vrai, on va en parler. Ouais. Tu t'es régalé, ça fait du bien.
Le match, je me suis régalé. Parce qu'il y avait de l'intensité, il y avait du jeu, il y avait le stade plein, c'était la fête.
Dans le week-end des poteaux, on va en parler dans un instant. Chef Templier là, salut Wilfried.
Salut tout le monde.
Ça va?
Parfait.
Le retour du top 14, ouais, ça y est, c'est fini Murrayfield, hein, le Principality Stadium et tout, les Anglais. Ça fait du bien aussi de revenir au top 14.
Ouais. C'est ton quotidien. On l'aime ce top 14.
Bien sûr. Julien Landry est là. Salut Julien.
Salut Georges, salut à tous.
Bah, Juju, il est content. Il y a Montpellier qui roule sur tout le monde.
Julien, oui. Il est depuis une place forte actuelle, voire très forte du top 14.
Un prétendant au titre, il faut bien le dire.
Est-ce que ça va mieux, tu dirais? Ça va particulièrement bien dans la vie quand Montpellier va bien.
On est pas trop mal.
Abonnez-vous sur les différentes plateformes pour ne rien rater de votre podcast rugby préféré. Aujourd'hui, on va parler de la journée top 14, évidemment, dans un instant, mais on va aussi évoquer un sujet qui a longtemps été tabou dans le rugby, récemment mis en lumière par Pierre Mignoni, l'entraîneur en chef du RC Toulon, revenu sur le bord de la pelouse et aussi en tribune ce week-end, après 3 semaines de pause, en raison de ce qu'il a appelé une décompensation, une surcharge de travail. Ce sont ses mots sur ses mots, MAUX. La pression, le poids des responsabilités, les cadences infernale, la passion dévorante. On va parler de la vulnérabilité des staffs dans notre championnat. Et on n'aurait pas pu en parler à toute époque. Hein. C'est déjà une sacrée avancée de se dire qu'on va pouvoir se poser cette question. Faut-il s'inquiéter pour la santé mentale de nos coachs de top 14? Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, Denis. On va en parler avec notre invité dans un instant, Didier Nourault, président de Tech 15, le syndicat des entraîneurs. Ils ont réalisé plusieurs études sur le sujet et même des préconisations. Mais avant de parler de notre sujet, retour sur le week-end des poteaux.
Oh, le hold-up des Montpellierains sur cette deuxième mi-temps. Ils sont venus une fois dans le camp des Clermontois depuis un quart d'heure, mais ils marquent. Le coup parfait des Montpellierains, c'est un très gros coup. Montpellier est lancé, 8e victoire sur les 10 derniers matchs. Victoire 20-17 à Clermont.
Puisqu'on a joué le ballon dans les mains des hommes de Karim Ghezal, ils sont à l'entrée des 22 mètres. Ils vont évidemment faire tourner la sirène. Il va falloir peut-être refaire un temps de jeu. Et le ballon qui va aller dans les mains de Méliard, qui va taper en touche. Et Victor, nouvelle victoire du Loup qui enchaîne les performances depuis le début du mois de janvier. Les hommes de Karim Ghezal vont mieux. Les Catalans qui ne voulaient plus perdre jusqu'à la fin de la saison avec Méliard tombent de haut.
Et c'est pour le Stade français incroyable. C'est Léo Barré, l'un des hommes du match. Tu l'avais dit, Philippe, tout à l'heure, je t'ai demandé c'est quoi ton top 3. Tu m'as cité Léo Barré. Et quelle percée aussi de Dakouvaka pour aller servir donc son arrière. Et du coup, l'essai du point de bonus offensif 46-27 pour le Stade français.
Et à l'instant, Hugo Sun dégage le ballon en touche et le Racing s'impose donc. Nathan Hughes lève les bras vers le ciel. 52-21, victoire bonifiée qui ouvre un petit peu la voie vers le top 6 pour le Racing qui a un calendrier très très favorable sur cette fin de saison.
Là, on prend l'eau de partout, ça va faire 58 et c'est sous les poteaux, ça va faire 60 points pour les Montalbanais. Mais c'est trop difficile cette saison pour ce Montauban là et ça fait les affaires de Bayonne qui va se faire du bien avec ses 5 points après 7 défaites de suite. Pour les Bayonnais qui n'avaient plus gagné, on l'a rappelé dans ce match depuis fin décembre.
À la 68e, La Rochelle qui va peut-être mettre un terme à tout suspense dans cette partie avec cet essai de Noël sous les poteaux. Ils ont réussi à breaker avec un Ignashvili. Quand ils décident d'accélérer, qu'est-ce que ça fait mal à l'adversaire.
J'entends déjà les poteaux me dire « Mais quoi, vous avez pas mis de UBB Toulouse ?» Non, c'était la soirée municipale sur RMC, donc on a plus parlé de Serge Blanco, maire de Biarritz, que du duel Ntamack.
On félicite
Jalibert. J'imagine, une légende du rugby, effectivement. Ouais. Donc maire de Biarritz. On pourra en parler peut-être un jour de ce qui se passe.
Il a tout gagné sauf le Brennus.
Ah, bien.
Je lui ai dit ce matin par texto.
Et la Coupe du Monde.
Ça l'a fait marrer. Ouais.
Bon, la Coupe du Monde, qui me s'intéresse.
Oui, on était en finale, il aurait pu moins faire gagner.
L'important, c'était le Grand Chelem, c'était pas la Coupe du Monde, ni rien. On a bien compris. La 19e journée du top 14, comme d'habitude, les meilleurs et les pires poteaux. Les gars, meilleur poteau, tiens, on commence par toi, Denis.
Léo Barré et le Stade français qui a mis 46 points à Toulon. C'est pas neutre, quoi. C'est un gros symbole. C'est surtout une ambition retrouvée pour le Stade français, qui a une grosse équipe, qui a un gros paquet d'avant, qui a les trois quarts à l'image de Léo Barré, plein de talent et voilà, qui va avoir son mot à dire, il me semble, dans cette fin de saison. Ouais, donc chapeau à eux.
Ils sont cinquièmes hein, actuellement, les joueurs du Stade français, qui n'avaient pas gagné depuis combien de temps face à Toulon, ouais, je crois que c'est une dizaine d'années. Ouais. Donc effectivement, impressionnant ce qu'a réussi à faire le Stade français. Wilfried.
Mon meilleur poteau, moi, c'est un joueur et c'est Billy Vunipola. Je ne sais pas si je vais shipper à Montpellier 1 ou Montpellier à Julien Landry, mais Billy Vunipola, moi, il m'impressionne. Je disais à Julien ce week-end pendant le match, il m'impressionne de match en match. Il a 33 ans, le mec, il a 74 sélections. Il a gagné, bon, il a 3 Coupes d'Europe avec 3 tours de destination. Et il ne vient pas là en pré-retraite parce que c'est un poison sur le terrain. Il ne laisse aucun répit à l'adversaire, que ce soit avec ou sans le ballon. Le 15 de France rêve peut-être que Lenny Nouchi soit notre futur 8, mais on peut pas faire jouer Nouchi en 8 parce que Vunipola est trop fort. En 8, j'ai l'impression, cette saison. C'est plus de 130 kilos, il fait un bien. Et c'est l'image de ce pack de Montpellier, moi, je trouve, qui fait peur à beaucoup de monde.
Non, c'est marrant parce que j'ai eu Bernard Laporte hier et il me vantait non pas les qualités du sportif, mais ce mec est exceptionnel dans la vie, au niveau du leadership, au niveau de son implication, il est extraordinaire, il est exceptionnel.
C'est un malabar.
C'est pas du tout marrant. Incroyable. C'est pas du tout marrant. Tu nous as dit que c'est marrant.
Mais... Non, je dis c'est marrant. Non, mais je veux dire, par là, je parle pas. C'est marrant parce que je parle pas. Il a parlé. Non, mais parce que Wilfried a parlé du sportif. Mais c'est un drôle de mec.
Julien, du coup, c'était ton meilleur poteau ou pas?
Non, alors ça va être le même poteau qu'il y a 3 semaines. Alors,
pas problème.
On a droit, j'imagine, mais,
attends,
non, mais Florian
Vérac. En amitié.
Exactement. Non, mais il parlait de Vunipola, Wilfried, mais Florian Vérac, il a un boulot depuis des mois. Depuis ce carton rouge, je l'avais dit, reçu au Racing, où il avait eu le sentiment un peu d'injustice. Il a été un peu mis au placard par Joan Codulo, beaucoup critiqué sur le fait qu'il faisait beaucoup de fautes, qu'il coûtait beaucoup de cartons et de points à son équipe. Mais depuis un mois et demi, il vole sur les alignements en touche. Il a volé 4 ballons à Clermont.
Surtout le dernier.
Ouais, c'est un cimetière à talonneurs, Florian Vérac. tu le mets dans un alignement et les talonneurs en face, ils savent plus où ils doivent lancer, devant, derrière, au milieu. L'autre, comme le disait Alexandre Bécogné, il fait 7 mètres. Donc ouais, quand il lève les bras, il est injouable. Et puis même défensivement, il a bas un boulot. C'est à l'image de Vunipola. De toute façon, c'est un pack si dense et méchant dans le bon sens du terme que, oui, ils sont partis pour faire... une grande saison. Je ne sais pas jusqu'où ça va les mener, mais ils vont pas être bons à prendre.
Non, mais attends, je ne sais pas jusqu'où ça va les mener. Ça va les mener jusqu'où, Denis, tu penses?
S'ils vont choper la seconde place, tout est permis. Hein. Ça veut dire qu'ils vont aller en demi-finale directement, pas face à Toulouse. Donc ça peut faire une
crois
finale
vraiment
Toulouse
à la deuxième place. Vraiment.
Ah, ils vont recevoir Montauban, ils vont recevoir Perpignan.
Ils sont
la fin de la saison à domicile. Ils ont un boulevard, mais ils ont de quoi faire.
Ils jouent à Toulouse, Julien, mais par contre ils sont diminués.
Ok.
Ça c'est l'info.
Ah, ouais, c'est ça. Mais c'est quoi ça? Parce que là, vous voyez pas.
T'as des infos du bout de la lèvre, quoi. Ça veut dire quoi?
Oui, ils seront, ils vont pas arriver pour gagner, quoi. En gros.
Ah. Super.
C'est incroyable.
Super.
Non, mais c'est pas une vraie info, mais ils vont me faire tourner, oui, bien sûr.
D'accord.
Ouais. Oh. Denis, c'est des choses. Hein. Par exemple, il nous avait annoncé la victoire de Montauban contre Bayonne ce week-end.
Ils vont pas aller se perdre des plumes à Toulouse alors que Toulouse
est au complet. C'est chiant. Voilà.
Ah oui, c'est chiant, oui.
Super match samedi 14h30. Maintenant, fais tourner.
Voilà, mais tu vas passer ton après-midi à
retour des Avengers.
Ils vont prendre 40. Oui, voilà.
En vrai, c'est insupportable. C'est un week-end sans Ligue 1, par exemple. Il y a pas de foot en face. Il y a que l'équipe de France.
Tu attends d'avoir
un choc entre le premier et le deuxième.
Il y a pas eu de match pendant 15 jours. Et après, ils ont le challenge quart de finale face à Perpignan. Je vois pas pourquoi tu mets pas ta. Bon
on a pas de choc. Voilà, on attendra
ces entraîneurs là.
Les playoffs, hein, pour avoir. Je vais en parler dans un instant. Du coup, c'est quoi? C'est ton pire poteau, c'est les entraîneurs, Wilfried?
Non,
quand même pas. Ce serait pas terrible.
C'est un pire poteau, un peu bienveillant, câlin. C'est avec Montauban, parce que c'est trop difficile. Je le disais, on l'entendait, je le disais samedi pendant le match. C'est la 15e défaite de suite. Et on prend les maths. Plus de 50 points de moyenne par match encaissé. 6 essais et demi par match encaissé. Ça a fait 3 fois 50, 3 fois 60, 3 fois 70, 1 fois 80 dans ce qu'ils ont pris. Vous imaginez? Ils ont pris 123 essais depuis le début de l'année. Agen, rappelez-vous, Agen, qui n'avait pas gagné un match en 2021, avait eu 2 points. Alors là, Montauban a gagné un match face à Perpignan et un nul face à Montpellier. Agen avait pris 146 essais dans la saison. Montauban en est déjà à 120.
23, il reste 7 matchs. Ça veut dire que les matchs sont encore plus, il y a plus d'écart encore. Donc c'est très difficile. Ils ont une superbe aventure au mois de juin, voilà, avec ce quart, enfin ce barrage demi et finale de Pro D2. Mais là, la saison. Mais Sébastien Tillius-Borne n'est même pas venu en conférence de presse. C'est la première fois qu'il fait ça. Je pense que c'est.
Mais pourquoi ?
C'est à un moment. Mais parce qu'il a plus rien. Enfin, il a pas grand-chose, pas envie de venir dire certaines choses, peut-être, ou il est peut-être en colère, ou mais il y a de la lassitude, je pense. Avec tous ces résultats, ils n'ont pas gagné un match de challenge européen. Ils ont perdu contre les Georgiens. Alors,
ils ont fait un match nul face à Montpellier. Hein.
C'est quoi l'ambiance à Saint-Piac ? C'est quoi l'ambiance à Saint-Piac quand tu y vas ?
Mais il y a des gens, c'est plein. Il y a toujours les supporters et les tambours. Ils sont là, ils ont du mérite. Mais bon, ça se bat moins. Quoi. Montauban met quelques essais, mais on prend. Voilà, se bat plus trop, il y a des boulevards, quoi. Donc, certains vont dire que ça fausse le championnat à un moment.
On l'a jamais dit ici, on l'a pas dit du tout depuis la première journée.
Non. Non, mais c'est.
Ça fausse pas le championnat si tout le monde prend 5 points. Il y a que Montpellier qui pourrait se plaindre, en fait.
Alors, en début de saison, ils étaient plus. Voilà, ils commencent à fissurer, quoi. Vraiment, c'est trop long.
Voilà. Julien, ton pire poteau ?
Eh ben avec les infos de Denis, mais je vais lui en parler de vive voix, c'est à Johan Codulo. Ça sera mon pire poteau, j'anticipe déjà samedi. Non, mais j'avais discuté un soir avec Johan. Il m'avait dit, j'ai eu Eric Bail au téléphone pour savoir quelle équipe j'allais envoyer. Et je lui dis que j'allais envoyer la meilleure équipe possible, parce qu'on n'a jamais lâché depuis le début de la saison. Mais si là, il commence à faire tourner. Alors après, je comprends le principe de Johan Codulo, parce que Sébastien Piqueroni avec la section n'avait pas fait tourner, ils en ont pris 50. Aller prendre 50 points, si tu envoies ta grosse équipe, tu peux casser une dynamique. Après, je trouve que c'est un bon moyen d'aller se jauger. Ouais,
moi,
si
je pense que
les Avengers toulousains sont de retour et qu'il y a quand même plus de chances de prendre des coups que de rentrer la tête
haute. Mais moi, je pense
que
c'est à cause de. C'est pour ne pas blesser des joueurs, tout simplement. Je pense que c'est pour préserver.
Après, Denis, je pense que s'ils n'avaient pas gagné à Clermont. S'ils n'avaient pas gagné à Clermont, ils auraient peut-être ciblé Toulouse. Aujourd'hui, ils ont fait le taf qu'il fallait faire. Ils ont 3 victoires à l'extérieur. Ils ont récupéré les 2 défaites à domicile. Johan Codulo est très attaché au classement britannique. Ils sont 2e au Britannique avec plus 17. Et je pense qu'aujourd'hui, finalement, Toulouse est devenu un match pour redonner du temps de jeu à des Adam Bird, à des joueurs qu'on n'a pas trop vus depuis quelques semaines. Voilà, il va envoyer une équipe compétitive, mais pas la meilleure équipe montpelliéraine. Donc ça sera, je lui dirai de vive voix que c'était mon pire.
Attention au bluff montpelliérain quand même. Hein. À Toulouse, ils ne sont pas nés de la dernière pluie. Vous avez pas
et au bluff de Denis aussi. Hein. C'est celui-là le plus terrible. Bon, évidemment, on en reparlera dans l'apéro des poteaux hein, vendredi en preview de cette 20e journée de Top 14. Et entre-temps, vous pouvez retrouver l'équipe type des poteaux, c'est ça Wilfried hein, sur rmcsport.fr de cette 19e journée. On trouve quoi par exemple ? Donne-nous 2-3 joueurs.
Verrag et Vounipola.
Ouais, bah, par exemple.
Maxime Lucu, on a
tu veux pas mon pire poteau ?
Mais tu l'as pas donné déjà,
non.
Mon pire poteau ?
Non.
Ah bah, je suis désolé, Denis.
Eh oui.
Bah, dis-moi.
Alors, c'est Movaca, moi. Ouais.
C'est Movaca.
Mais c'est bienveillant aussi, parce que c'est pas contre lui. C'est tellement. C'est-à-dire que son geste est tellement fou et tellement. Il y a une conséquence derrière terrible pour eux. Avant la mi-temps, tu menais, tu rentrais au vestiaire, et là, tout d'un coup, tout tourne, tout bascule. Il n'a pas contre-attaqué ou dans l'autre. Mais bon, c'est sur leur esprit aussi, peut-être à Toulouse, hein, Wilfried. C'est aussi
pour expliquer aux auditeurs, Georges, la sirène avait retenti. Oui. Bordeaux a le ballon, les Toulousains grattent le ballon, Movaca récupère le ballon. Tout le monde pense qu'il va le sortir en touche.
Mais les Toulousains mènent de 2 points, je crois.
Ouais, ça. Movaca décide d'aller plein axe percé, il perd le ballon et 3 minutes plus tard, Bordeaux marque un essai, ça fait peut-être basculer le match.
Et ça fait peut-être vraiment basculer le match.
Vous êtes d'accord avec Denis sur son pire poteau, les gars ?
Pire poteau, je sais pas, mais c'est.
Non, mais en tout cas,
il n'y a pas que ça en erreur, mais au final, c'est une erreur de Piatto Movaca.
Non, mais c'est, je veux dire.
C'est mettre de plus à un moment dans le match.
Pourquoi je parle de. C'est pas forcément Movaca, mais c'est la conséquence qui est terrible, en fait. Tu maîtrises, tu es en pleine maîtrise. Toulouse maîtrise le match. Il y a tout qui est réuni pour qu'il fasse un gros match à Bordeaux. Et après, ça se délite de partout. Hein.
Voilà, ça c'était donc le Union Bordeaux-Bègles Stade Toulousain de ce dimanche soir. Voilà pour la 19e journée de Top 14. Tout de suite, on va évoquer notre thème principal, ce qui se passe en ce moment dans la tête de nos coachs et préparateurs physiques. Enfin, tout ce staff actuellement, le Top 14. Faut-il s'inquiéter pour la santé mentale de nos coachs de Top 14 ? C'est notre question aujourd'hui. Alors évidemment, c'est une thématique qui arrive sur la table depuis les mots de Pierre Mignoni, qui a fait son retour, donc l'entraîneur en chef du RC Toulon, ce week-end avec la défaite. Hein, donc on l'a dit, donc face au Stade Français à Mayol. Il a fait une pause de 3 semaines pour une décompensation. Hein, c'était difficile pour lui. On va l'écouter justement, Pierre Mignoni, avant le match, donc pour évoquer son retour.
Je me suis exprimé, j'ai connu une période très difficile que je n'ai pas l'habitude de connaître. Je remercie encore les joueurs, bien sûr, le staff, le président, les supporters qui m'ont beaucoup soutenu, même si j'ai pas tout vu parce que j'étais une période très très difficile de ma vie. Et voilà, c'est des choses qui arrivent. J'ai essayé de prendre beaucoup de recul et de prendre les meilleures décisions et c'est ce que j'ai fait. Je reviens avec beaucoup d'appétit et mieux. Je continue à faire tout ce que je fais, mais en mieux.
Voilà, en mieux. On l'a déjà vu faire quelques changements d'ailleurs, hein, parce que sa première mi-temps était en tribune. Il s'est ensuite rapproché du terrain au fur et à mesure du match. Donc il a peut-être déjà commencé à déléguer un petit peu plus. C'était ça une des problématiques. Et on va en parler justement de cette thématique que Pierre Mignoni met en lumière avec Didier Nourot, président du syndicat des entraîneurs de Tech 15. Salut Didier.
Salut à tout le monde.
Salut.
Et bonjour. Bienvenue dans Entre les poteaux. On va en parler dans quelques instants des travaux de Tech 15 sur les conditions de travail des membres de l'encadrement sportif, des préconisations que vous proposez, parce que pour vous, c'est pas un sujet en fait qui apparaît maintenant avec Pierre Mignoni. Mais déjà le cas Mignoni qui arrive là, qui fait parler un petit peu pour le monde. C'est un signal d'alarme pour vous à Tech 15.
Alors c'est un signal d'alarme là qui est en effet médiatisé, mais on a commencé à faire des études depuis 2017-2018 sur en effet la santé mentale des staffs, et que ce soit des managers, que ce soit des préparateurs physiques, des analystes vidéo, des entraîneurs spécifiques, et déjà à ce moment-là on tirait la sonnette d'alarme auprès des clubs. Donc c'est pas réellement un phénomène nouveau. Et voilà, par contre, par rapport à cela, en effet, aujourd'hui, le fait que Pierre puisse, entre guillemets, puisse prendre 3 semaines pour se ressourcer, pour se permettre de reprendre un petit peu de vision un peu plus haute, etc., c'est quelque chose de très positif. Et ça met en avant, en effet, les problématiques que l'on essaye de soulever depuis déjà quelques années.
Oui, parce que le phénomène nouveau, c'est d'en parler, en fait. Est-ce que ça...
Ouais, malheureusement, alors, ils ne sont pas surpris, peut-être.
Ouais. Denis, ouais, mais après on en parlait, on va dire entre nous, on en parlait avec les staffs de manière individuelle. Depuis 2 saisons, on en parle de manière collective avec les staffs. Dès que nous on a nos équipes qui vont voir tous les staffs top 14, Pro D2 et de National, d'Elite 1, etc. C'est un sujet qu'on aborde avec eux depuis 2 saisons de manière collective. Avant, c'était en effet plutôt de manière individuelle. Alors, on proposait des suivis avec des psychologues, des préparateurs mentaux, etc. Mais de manière individuelle. Là, depuis 2 saisons, on en parle vraiment de manière collective. Et là, on a fait... Alors bon, je suppose qu'on va en parler, ce que tu disais tout à l'heure. On a fait une étude sur le levier de performance pour nous. En effet, la qualité de vie au travail, c'est un levier de performance pour les staffs et pour les clubs, et donc pour les joueurs, pour les équipes, etc.
Wilfried,
qu'est-ce que vous entendez de... Il y a pas bon, quoi. Qu'est-ce qui, depuis des années, parce que je dis, vous n'êtes peut-être pas surpris, malheureusement, de voir Pierre Mignoni, le cas de Pierre Mignoni. Qu'est-ce que vous entendez depuis des mois, voire des années dans la difficulté?
C'est que on sait que l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, quand on est manager, quand on est analyste vidéo, préparateur physique, c'est quelque chose qui est très dur à mettre en place. On ne peut pas, parce qu'on est sollicité. Alors en top 14, bien entendu, sollicité pratiquement tous les week-ends. Il doit y avoir 35 week-ends sur 50. Enfin, il faut y être. Enfin, c'est tout le temps. Il y a des séries de 14 matchs. Quoi. Mm-hmm. C'est difficile. Et après, en effet, toutes les conséquences sur la famille, sur l'état d'esprit à la maison, etc. C'est difficile à gérer pour tous.
Ils n'ont pas de vie de famille, en fait. Enfin, je sais pas, moi, quand j'entends que les entraîneurs, ils arrivent à 6h du matin, qu'ils repartent à
5 heures parfois.
Bon, 5 heures. Ça, on va en parler tout à l'heure, j'espère, parce que de partir le soir à 20h, 21h, elle est où la vie de famille ?
Non, mais voilà. On peut commencer à parler, Didier, voilà, de l'étude. Hein. 100% des staffs estiment qu'il y a un impact ponctuellement ou régulièrement sur leur entourage. Bonne conciliation de la vie professionnelle ou personnelle, seulement 29%. Donc là, il y a des chiffres dans votre étude qui sont éloquents sur l'impact que ça a.
Bien sûr, l'impact est considérable. Mais après, sur pareil, c'est comment on peut aborder de manière différente le travail ? Voilà, c'est comment peut-on faire pour que, en effet, voilà, après, c'est comme bon, quand on est manager, on est cadre supérieur d'une entreprise. C'est pareil dans beaucoup d'autres entreprises, d'autres métiers, etc. Mais comment
Oui, mais la pression n'est pas la même dans les autres métiers.
Exactement. On est d'accord. Là, tu as la pression médiatique, tu as la pression du résultat, tu as les enjeux, tu as tout, tu as les médias, les réseaux. Enfin, tu as plein de choses qui, aujourd'hui, amplifient cette problématique. Oui. Et maintenant, comment fait-on pour réussir à prendre un petit peu plus de vision macro, on va dire, une vision un peu plus large, qui permette peut-être de déléguer un peu plus, d'avoir un peu plus de formation sur, ben, en effet, la délégation, comment faire dans l'entreprise, etc. Voilà, ça, c'est des sujets qui sont prégnants. Il s'agit pas de dire c'est des métiers qu'on choisit, qu'on aime. Dans l'étude, ben, tout le monde est hyper passionné par son boulot.
Justement,
donc voilà.
Didier, voilà. Justement, parce que ce que tu dis, en fait, c'est pas un métier en soi, c'est un métier à part qui ressemble à aucun autre, en fait.
C'est un métier de passion, un métier.
Non, mais je veux dire, ce rôle de manager au niveau des staffs et tout, tu le vois où?
Juste pour aller dans le sens de Didier, j'en parlais avec Joanne Codulo cette semaine. Tu sais, il y a des fameux blocs des joueurs, et donc les joueurs sortent d'un bloc de 11 matchs là, où on dit qu'ils sont fatigués. Et donc je dis à Jo, on dit que les joueurs sont fatigués, mais toi, comment tu termines ce bloc de match? Parce que nous, pour le coup, les samedis soirs, quand le match est terminé, on voit souvent les joueurs après match décompresser à la brasserie, boire une bière. Et moi, je sais que Joanne, à 21h, il est déjà dans son bureau, en train de regarder le match que son équipe vient de faire, et il bascule déjà sur le match d'après. Et il m'a dit, on finit rincé. Didier, est-ce qu'il y a une solution? Déjà, c'est de leur dire, genre, le dimanche, il faut couper. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose que très facile à dire au manager, genre, le lendemain du match, vous coupez?
Non, mais chacun voit après midi à sa porte, à mon avis. Il n'y a pas de vraie solution. Maintenant, il faut savoir prendre du recul. Prendre du recul, pour certains, c'est couper. Ça peut être coupé une journée, ça peut être coupé... Voilà. Mais pendant qu'on coupe, il faut être capable de déléguer, parce que pendant ce temps, ça bosse. Mmh. Pendant ce temps, il y a en effet, comme tu le dis, préparer le match de la semaine d'après, mais celui aussi dans 15 jours, dans 3 semaines. Parce que tout ça, c'est des choses que l'on prévoit au fur et à mesure dans le calendrier de la saison. Et on est toujours en train, entre guillemets, d'anticiper ce que l'on doit faire. Alors, vous parliez tout à l'heure que Jo, peut-être à Toulouse, il ne mettrait pas peut-être forcément tous les... Mais ça, c'est quelque chose qu'il a programmé pour préparer Montferrand et pour aller gagner à Montferrand. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout ça, c'est des choses qui se préparent en amont et qui ne s'arrêtent jamais. Maintenant, en effet, comment fait-on pour s'appuyer sur un staff qui est aussi solide à côté de soi, Pierre, l'exemple de Pierre, il a eu, et comme il l'a dit lui-même, il a un staff, des joueurs, un président qui lui a permis aussi de faire ça, et ça, c'est essentiel. C'est essentiel d'avoir, alors c'est partie des préconisations que l'on fait, d'avoir un alignement entre la vision stratégique que veut avoir le club et la gouvernance du club. Si on arrive à aligner tout ça, déjà, il y a un confort de travail, entre guillemets, qui s'installe. Ça n'empêche pas de ne pas avoir la pression, d'avoir des résultats, etc. Mais ça permet d'avoir une ligne de conduite. Et ça, c'est hyper important. Alors après, difficile pour des coachs qui ont des contrats de 2 ans d'avoir des lignes de conduite sur la durée. C'est vachement difficile aussi. Alors voilà, c'est toujours le chat qui se mord la queue, entre guillemets. Mais ça, ça peut être des solutions aussi.
Ah, mais c'est ça l'avancée, c'est clair, à Toulon, en tout cas, avec le président Lemaitre, qui a permis ça. Et aujourd'hui, on a l'impression même que dans le sport en général, c'est de plus en plus entendu, la problématique. Je pense même dans le football. On a vu le capitaine du Barça, Ronald Araujo, par exemple, le club du Barça lui a permis de faire une pause. Donc c'est un contexte général dans le sport qui permet d'écouter. Juste, Denis, on en parle juste après, mais Julien a parlé de Joanne Codulo. Je voulais qu'on l'entende, justement, parce que tu lui as posé la question cette semaine, Julien, sur sa réaction par rapport au retour de Pierre Mignoni. À quoi ça lui fait penser?
Ça met un coup de frein à main quand on voit ça. Pierre engage comme tous les managers à 100% et on sait très bien que les coups de mou arrivent. Ce coup de mou-là, il a été quand même assez important pour lui parce que c'est quelqu'un qui s'engage énormément. Et c'est hyper difficile et on tous une épée Damoclès là-dessus. C'est sûr que des défaites comme il a subi contre Clermont, elles sont difficiles à accepter. Et c'est le trop-plein qui fait que derrière, on enchaîne. Hein. Après le match aller contre Clermont, j'ai eu aussi ces sensations-là. Mais ce métier, il est tellement beau dans tout le reste et tellement intéressant, exigeant, que ça donne envie d'y retourner, et je pense que Pierre est déjà à 100% pour gagner le prochain match qu'il aura à faire. Quoi.
Ça permet de parler, Didier, quand même, tout ce qui s'est passé.
Didier, il y a aussi une donnée à prendre en compte, parce que Pierre, ça fait 15 ans qu'il est sur le ring, on va dire, parce qu'il était adjoint de Bernard, ce qui était quand même très éprouvant aussi.
Mais déjà, le fait que tu utilises le mot ring, ça veut dire quelque chose.
C'est-à-dire
que c'est un endroit où tu prends des coups.
Mais bien sûr, mais non, mais il a été adjoint de Bernard Laporte pendant quoi, 5 ans, je crois, hein, Wilfried, il me semble, ou un peu plus. Mais après, il est allé à Lyon, il est allé... Je veux dire, à un moment donné, il y a quand même aussi, sur la durée, c'est une épreuve, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut arriver à couper. Parce que sinon, ça te conduit au burn-out, comme l'a vécu Pierre.
Très sûrement, mais c'est... Alors, après...
Ça peut être la conséquence de...
C'est comme dans l'entreprise. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme dans l'entreprise. On a des situations de stress qui sont extrêmes. Et on sait que ces situations de stress influent sur la santé physique aussi. Santé mentale, santé physique, ça va forcément de pair. Et nous, on a saisi la commission médicale de la Ligue, avec qui on a bien entendu d'excellents rapports, de manière à ce qu'on puisse faire un maximum de prévention. C'est-à-dire qu'il nous faut, il faut qu'on arrive à avoir des signaux d'alarme qui permettent, à un moment donné, au staff, lorsque ça devient un peu plus compliqué, c'est organisé hein, au niveau des clubs, etc. Et ça ne veut pas dire que ce soit le médecin du club qui doit traiter ça. Mais il faut qu'il y ait des signaux qui permettent au manager de dire « Attention, là tu dépasses le truc, ça devient trop compliqué, prends un peu plus de recul et délègue. » Il y a un déni, certes, mais on y est de moins en moins. Là, aujourd'hui, vous parliez de tous les sports. Et en effet, c'est une cause... Enfin, dans tous les sports, on s'en aperçoit. On s'aperçoit que les staffs sont tellement mis sous pression qu'il leur faut parfois... quelques soupapes, ou du repos, ou de prendre de la hauteur, et peut-être de leur donner aussi d'autres possibilités, c'est-à-dire que peut-être de faire des séminaires, de faire des formations aussi, parce qu'aujourd'hui, on a des staffs qui sont extrêmement compétents sur le rugby, qui s'améliorent de plus en plus au niveau managérial, et on a essayé de bosser sur les nouveaux diplômes, enfin sur les DES, etc., de manière à ce qu'il y ait des formations managériales, mais aussi, il faut qu'on arrive à faire de la formation continue là-dessus, pour qu'ils puissent avoir d'autres billes, d'autres outils, comme on fait dans l'entreprise. Aujourd'hui, dans l'entreprise, les cadres, ils sont en formation tous les ans ou tous les deux ans. Et c'est une obligation. Et là, ça devrait être exactement pareil. Il faut qu'on arrive à ce que nos staffs puissent avoir des formations complémentaires pour, mieux gérer les réunions, savoir prendre du recul, des actions managériales plus importantes, créer des séminaires avec le staff ou avec d'autres.
En fait, c'est tout simplement avoir les bons outils, les bons leviers dans un monde nouveau, en fait, qui n'est plus le monde du rugby d'avant aussi, dans un monde ultra professionnel, ultra exposé, pour plein de raisons. Il faut avoir les outils pour affronter ça, comme dans toutes les entreprises.
Je ne sais même pas comment ils font. Hein.
Ouais. Wilfried.
Est-ce que ce qui est arrivé à Pierre Mignoni, alors c'est malheureux, mais est-ce que Didier, c'est pas un mal pour un bien, parce que la parole peut se libérer, parce que c'est un poste aussi de chef de meute, où il y a entre les managers de l'ego, de la course à la performance, et qu'on veut pas veut jamais montrer
ses faiblesses,
oui. En fait. Donc est-ce que ça peut pas vous aider aussi?
Alors. Bien sûr, enfin, bien entendu.
Après, ça serait passé, évidemment, Didier. Mais...
Bien sûr, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que de montrer ses faiblesses à un moment donné, c'était pas bien des avis des employeurs potentiels. C'est-à-dire que le coach qui allait voir son président pour lui dire « Président, laisse-moi 4-5 jours pour me mettre en cours, enfin, pour prendre un peu de recul, etc. », il se faisait dézinguer. C'était difficile de trouver la parole, l'appui d'un président là-dessus. Et derrière, ils ont peur de plus être bankable, entre guillemets. Donc tout
et
ça,
c'est par rapport aux joueurs. Mais Didier, aujourd'hui, parce qu'ils ont 45 mecs sous les ordres, quoi.
C'est vrai. Non, mais 45 mecs et 15 ou 20 mecs de staff.
Plus et un président.
Plus tout l'entourage du club. Plus tout l'entourage. Donc il y a énormément de pression là-dessus. Mais aujourd'hui, il faut qu'on prenne les choses. Enfin, bon, la santé mentale est une cause nationale, hein, mais il faut qu'on prenne les choses, on va dire, de plus en plus à leur juste mesure. Et comme vous le disiez, le rugby aujourd'hui, enfin, il y a les data, il y a la gestion des hommes, c'est hyper complexe. Et donc, par rapport à il y a 10 ans, 20 ans. Et donc là, maintenant, il faut vraiment avoir la discipline et la façon de travailler des grands cadres d'entreprise. Après, en effet... on est, alors j'ai discuté avec le médecin de la Ligue, après on est des cadres d'entreprise, il faut qu'on soit aussi capable de se positionner comme des cadres. Il ne s'agit pas non plus d'aller pleurer parce que si, parce que ça, parce que machin. Non, on est des cadres d'entreprise. Donc il faut qu'on soit aussi formé à ça de mieux en mieux. Et puis formé, et puis pas tout le monde a la capacité d'être manager. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que les analystes vidéo dans les staffs qui s'occupent des data, les mecs, ils bossent comme des malades. Parce qu'il faut qu'ils donnent, ils sont tout le temps sollicités et par les entraîneurs spécifiques, et par les prépas physiques, et par les managers, pour donner des data en permanence.
Alors justement, je voulais rebondir là-dessus. Donc Didier, ça aussi. Parce que dans vos études, aussi, hein. Dans vos études, on a l'impression que c'est même ceux qui sont le plus touchés. Parce que là, on parle des managers, ceux qui sont, on va dire, sur le devant de la scène, entre guillemets, peut-être un peu moins ceux qui sont dans l'ombre de ces staffs, les analystes vidéo, par exemple, on voit dans votre étude, c'est eux qui ont le plus de difficultés à l'endormissement, par exemple, hein, qui ont le plus de problèmes de sommeil dans un staff, ceux qui ont le plus d'impact sur le stress, sur la santé physique, ceux qui ont également le sentiment qu'ils ne sont pas forcément pris en compte sur leurs problèmes personnels par la hiérarchie. On parle de Pierre Mignoni, on parle de Joanne Codulo depuis tout à l'heure, on parle, on pourrait parler d'Hugo Mola ou d'autres. Mais c'est vrai que c'est aussi toutes ces personnes-là, les staffs sont de plus en plus importants en plus, hein, qui souffrent peut-être encore plus finalement de ces situations.
Complètement. Après, là on parle de tête de gondole, de top 14, mais les mecs de Pro D2 c'est pareil. Hein. Mm. Les mecs en national c'est pareil parce que les staffs sont moins importants, il y a moins, etc. Donc franchement, c'est problématique un petit peu à tous les niveaux. Et nous, ce qu'on espère, c'est que l'étude qu'on a faite là avec des préconisations, qu'on puisse la développer sur toutes les parties du rugby, qu'elles soient professionnelles ou amateurs, et donner des bonnes pratiques, en fait. C'est surtout ça. Mais, pour parler des autres dans le staff, alors l'avantage, entre guillemets, qu'ils peuvent avoir, c'est que des analystes vidéo, aujourd'hui, il y en a 3 ou 4. Donc, ils peuvent tourner peut-être un petit peu plus, ils peuvent s'organiser de un petit peu plus. Les préparateurs physiques aussi, ils ont des cibles bien déterminées, la reprise des blessés, l'athlétisation, etc. Voilà, il y a peut-être, c'est peut-être un peu moins sous pression que le manager qui est, lui, l'expression de ring, c'est pas mal, quoi. C'est un peu un punching ball, quoi, entre guillemets. Mais voilà, après, c'est vrai qu'il faut avoir les épaules solides, ouais. Il faut être clair dans sa tête. Est-ce que
le plus dur, Didier, pour eux, c'est de déléguer parce que Pierre Mignoni le disait, en fait, ce que je ne sais pas faire, c'est déléguer. C'est faire confiance parfois à mon staff. Il dit, j'arrive à 5h, je repars à 22h, je ne fais pas confiance. Tu disais, moi, je vois Joanne Codulo, il gère les préparateurs physiques, les analyses vidéo, la préparation de la semaine. Quand est-ce que lui peut revenir de blessure? Comment il s'entraîne?
J'arrive à quelle heure, lui?
Exact. On en a parlé à Joanne. Joanne m'a dit, j'arrive tard au travail, j'arrive qu'à 7h le matin. Je lui dis, mais attends, c'est une blague, 7h.
Parce que non, mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'au-delà du travail des staffs avec les joueurs, tout ce qu'il y a, mais il faut gérer en effet les journalistes et les agents.
Toute l'année.
Boulot, quoi. Et puis les partenaires, parce que aussi, Joanne, des fois.
Parce qu'en effet, il faut aller voir les partenaires, parce qu'il y a une démarche normale, bien entendu. Il faut anticiper.
Oui, mais après, tu as le rôle du directeur sportif, quand même, qui.
Aussi.
Je prends l'exemple de Bernard Laporte.
Ou du responsable rugby, bien sûr.
Oui, non, mais c'est vrai.
Le directeur de rugby qui travaille aussi avec les partenaires, etc. Bien sûr.
Il n'y en a pas dans tous les clubs, comme ça. Enfin, il y a certains managers qui prennent beaucoup de place.
À Toulouse, oui. À Montpellier, oui. Tu prends quelques exemples, quand même, Wilfried.
Oui, mais les managers veulent tout le temps être impliqués et leur année ne s'arrête jamais. Quand ils arrivent en fin de saison, ils ont 2-3 semaines de vacances, mais ils ont déjà enchaîné sur le recrutement, sur le planning.
Septembre, où ils recrutent.
Oui, mais faut savoir gérer les plannings avec les joueurs, comme tu l'as dit, retour de blessure, les gifs, la composition des groupes, la tactique des matchs, les résultats, le courant. Enfin voilà, tout se mélange en fait pour les managers.
On est d'accord, mais on en revient à l'organisation pure, c'est-à-dire que à Montpellier par exemple, Julien, tu sais très bien que Joanne s'appuie beaucoup sur Bernard et qui lui fait un gros travail en amont. Donc c'est une entente aussi, c'est une complicité. Il faut trouver le bon équilibre, c'est ça, Didier.
Mais oui, alors tout à fait. Après, tu parlais de 2-3 semaines. Je rappelle que la loi du travail, c'est quand même 5 semaines de congé. Je dis ça comme
qui a un document important a priori.
C'est
pas par la loi du travail que je dis ça. Je dis juste qu'on a besoin, quoi qu'il arrive, de souffler au moins 5 semaines par an, de plage de repos, et d'avoir des RTT, d'avoir des week-ends, etc. Mais là, les mecs, ils en ont pas. Tu commences, je te dis. Donc voilà, il y a.
Oui, puis ils peuvent être en vacances, Didier, alors, après, et dans la tête être encore des fois.
Bien entendu. Et puis t'as les coups de fil parce que t'as encore un recrutement ou t'as un mec que t'as recruté, pas de cul, il est blessé et puis qu'il faut trouver un joker, il faut faire ci, il faut faire ça. Enfin, tu vois, c'est complexe, quoi.
Moi, Didier, la question que j'avais, c'est que sur ceux que vous avez, on va dire, interrogés, parce que d'ailleurs, c'était une étude anonyme, hein, au début, c'est important de le préciser, mais est-ce qu'ils sont tous conscient de ça, en fait, de la dureté, ou est-ce que en fait il y a une espèce de non mais bon c'est normal, un peu comme le disait Julien, voilà, Joanne Codulo qui dit j'arrive à 7h, c'est hyper tard. Est-ce qu'il y a une conscience quand même de la dureté du travail, ou il y a le côté toujours de non c'est la résilience, c'est comme ça, c'est le rugby, il faut savoir enchaîner, ou ça rentre se déconstruire quand même?
Non, alors il y a une vraie conscience, il y a une vraie prise de conscience de l'état entre guillemets dans lequel on est, parce que les gens sont de plus en plus sollicités par leur propre santé. Maintenant, quand on est passionné, tout ça, ça passe à travers. Mais il arrive au moment où ça déborde. Et c'est ça le souci. Et comment fait-on, ce que je disais tout à l'heure, comment fait-on pour avoir des signaux d'alerte pour que cette passion ne déborde pas sur ta santé physique, ta santé mentale, etc. C'est ça qui est important.
Tiens, on va écouter Virgile Lacombe, l'entraîneur des avants du Stade Toulousain, que tu as interrogé, Wilfried, cette semaine. Justement, on parle des staffs autour et de l'importance d'avoir peut-être quelqu'un comme Hugo Mola, par exemple, qui va être à l'écoute de ses équipes pour le travail et le repos, surtout.
On ne s'en rend pas forcément compte au quotidien, que parfois on est un peu trop pris, un petit peu trop engagé ou investi dans notre quotidien, dans notre travail. Mais c'est un peu comme partout. Parfois, il faut savoir fermer l'ordinateur, ne plus venir au club pendant un jour quand il y a un jour de repos ou pendant une période de vacances. Et je pense que Hugo en a conscience, et depuis quand même pas mal de temps, enfin moi depuis que j'entraîne ici, on a des périodes de coupure qui sont réelles et qui nous permettent de nous régénérer, parce que c'est vrai que parfois quand on enchaîne 10, 13, 15 semaines consécutives, c'est assez pesant.
Wilfried, ces mots quand même, c'est assez pesant. On sent un besoin de parler, hein, même à Toulouse, dans le staff autour du Gomola.
Ouais, il était réceptif quand tu l'as posé la question. Bon, c'est en ce moment, hein, tous les managers sont interrogés là-dessus, mais ça fait quand même. Alors, certains vont vous dire, oui, ils ont des bons salaires, enfin des bons contrats, machin. Il faut quand même se rendre compte de. On l'a répété, hein, la pression qu'ils ont. Et par rapport à votre travail à Tech 15, quand on parlait de l'entourage, mais que ça. Quand 100%, c'est près ça, c'est 100% disent qu'il y a un impact sur leur entourage. Parce que le chiffre est quand même incroyable, et que ça a des impacts sur leur. Au-delà du stress, qui revient très souvent, et même ils disent sur leur santé. Donc c'est une sonnette d'alarme quand même, Didier.
Mais,
quoi.
Non, mais bien sûr, nous, la sonnette d'alarme, ça fait, ce que je dis, ça fait presque 10 ans, 8 ans qu'on l'attire et qu'on en parle, qu'on essaye d'en parler. Alors, c'est bien que ça se débride, c'est bien que. Merci de votre invitation, parce que ça permet d'en parler, etc. Mais après.
Vous n'étiez pas entendu avant, parce que c'est intéressant.
C'est en effet.
On essayait d'en parler depuis 10 ans. Vous n'étiez pas entendu avant?
Si.
Médiatiquement pas trop.
Dans chacun des clubs, il y a des pratiques. On peut pas dire qu'il n'y a pas de pratiques. D'accord. C'est dans chacun des clubs, il y a des choses qui sont faites. Après, qui sont faites un petit peu dans le désordre. Il n'y a pas une vraie stratégie. Il n'y a pas quelque chose de mis en place. Nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait un échange des bonnes pratiques, et que chaque club puisse prendre ces bonnes pratiques et les mettre entre guillemets à sa sauce, aux besoins des personnels qu'ils ont et de leur staff. Ça, c'est essentiel. Et après, c'est en effet comment les clubs permettent, alors ce que tu disais tout à l'heure, hein, vous parliez d'organisation, comment les clubs permettent de mieux s'organiser pour qu'on soit de plus en plus performant. Parce que l'objectif, il est là. Il ne s'agit pas d'aller, ce que je disais tout à l'heure, d'aller se plaindre parce que non, on est cadre, après l'argent ne fait pas tout, hein, loin de là, mais on est cadre, on a un boulot, etc. Enfin, voilà, mais comment fait-on maintenant pour devenir de plus en plus efficace, de plus en plus productif, pour que le rugby en général évolue?
Mais est-ce que la complexité, Didier, c'est pas aussi la précarité? finalement de ces postes de manager. Tu l'as dit tout à l'heure qu'ils sont évidemment sous la pression des résultats. Pierre, il a craqué après une défaite à domicile contre Clermont. Parce que il sentait peut-être que la saison allait mal tourner et que Joan Codillo, il est en contrat jusqu'à l'année prochaine et qu'il a peut-être la volonté aussi de prolonger. Est-ce que ce côté-là aussi un peu précaire des contrats rend la chose complexe pour identifier leurs problèmes?
Alors, bien sûr. Maintenant, je pense que Pierre s'inscrit sur une certaine durée à Toulon. Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel qu'on puisse... dans toutes les entreprises, on ne cherche pas de carte d'entreprise tous les ans ou tous les deux ans. Donc, à un moment donné, voilà, quel est, ce que je disais tout à l'heure, quel alignement on met entre la gouvernance, la vision stratégique et le responsable du staff, entre guillemets. Et ça, c'est une question essentielle.
Mais ils sont pessimistes.
Il faut qu'on soit aligné.
Dans ce que vous avez fait, comme ils sont pessimistes, ils le disent sur la stabilité de leur emploi, ces hommes-là.
Oui, bien sûr. Et surtout que quand on a, ce que je disais tout à l'heure, quand on a un contrat de 2 ou 3 ans, les clubs n'en font pas forcément l'effort de former les managers ou les staffs à des pratiques managériales, des outils qui le permettent de prendre de la hauteur. Parce que ça, c'est hyper important. L'interview de Virgile Lacombe, il disait il faut qu'on soit capable, une journée par semaine au moins, de fermer l'ordinateur et de faire autre chose. Mais ça, c'est essentiel parce que ça permet au cerveau, toutes les études, etc., de réfléchir et de prendre de la hauteur.
C'est ce qu'arrive à faire Hugo Molin.
Exactement. Parce qu'on peut penser que le Stade Toulousain a aussi des bonnes pratiques là-dessus.
Oui.
Et ça ne veut pas dire que le Stade Toulousain est un exemple plus que les autres. Parce que les autres aussi fonctionnent. Nous, les études qu'on a faites, la dernière étude qu'on a faite pour l'accompagnement de la qualité de vie au travail, on a travaillé avec des clubs de top 14, des clubs de Pro D2, qui ont bien voulu travailler avec nous pour voir comment on pouvait faire évoluer les choses. Et il y a des bonnes pratiques. Il faut qu'on arrive à les mutualiser et à les mettre ensemble. Après, moi, j'insiste aussi sur le fait qu'on puisse laisser aux managers et aux gens du staff d'avoir le temps de prendre du recul et de leur permettre de prendre du recul en ayant des formations annexes. C'est hyper important. Mais comme... c'est comme dans toute entreprise, je ne vais pas en citer, mais comme dans toute entreprise. C'est juste normal. Après, et Julien, tu as raison, c'est vrai quand on a un contrat de 2 ou 3 ans, le président du club, il ne va pas dire j'ai pas formé un mec, parce que je sais que j'en ai un autre dans 2 ans ou dans 3 ans.
Mais c'est parce que c'est ça la limite du truc.
Mais c'est voir à court terme. C'est voir à court terme. Parce que du coup, les managers, ils peuvent passer de un club, deux clubs, trois clubs, mais ils ne sont pas formés mieux pour autant. Et on se retrouve de nouveau dans la même spirale. Et c'est voir à court terme.
Et alors, est-ce que ce discours-là, le tien, le vôtre, à Tech 15, il est entendu par tout le monde? Ou est-ce qu'il y a des résistances? Parce que, en fait, quand on en parle et quand on entend tous les staffs, on a l'impression que ça devrait être un peu un truc genre une cause nationale, quoi. Est-ce que c'est suffisamment pris au sérieux? On l'espère, mais est-ce que c'est suffisamment pris au sérieux par la Ligue, par les clubs, par les patrons de ces équipes? Ou est-ce qu'il y a des résistances sur... on a les performances, on doit avoir des bilans financiers importants, on doit avoir des résultats sportifs. Est-ce que tout ça est entendu? Ou est-ce que vous êtes inquiet?
Non. Objectivement, on pense que c'est entendu. Après, il faut que ça chemine. Il faut que... je parle de formation, etc. Mais quand il faut que tu prennes tes 3, 4, 5 semaines de congé et puis que derrière, tu as 40 semaines de boulot, il ne te reste pas beaucoup pour te former, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout ça, il faut garder du temps pour le faire. Et aujourd'hui, on a une écoute. Ça, c'est clair. On a présenté le projet à Ligue nationale de rugby devant les présidents, etc. On a réellement le sentiment d'avoir une écoute. Ça, c'est clair. Maintenant, ça va être suivi des faits avec plus ou moins de distance, etc., en fonction des clubs et ainsi de suite. Mais on peut pas dire qu'on n'a pas d'écoute. Autant... on peut parler, alors ça dépendait des clubs.
Mais il y a une écoute, mais est-ce qu'il y a une conscience de l'urgence? Parce qu'en fait, c'est vrai que ça fait peur à tout le monde quand on voit ce que dit Pierre Mignoni de « je suis resté enfermé, j'ai dormi pendant 5 jours ».
Ça fait peur d'un out.
Il a parlé de décompensation, mais c'est vrai que c'est un burn-out. Je veux dire, si on n'est pas conscient de ça, attention, on peut peut-être courir à la catastrophe. C'est en ça que le cas présent peut vous servir d'urgence, en fait, pour une prise de conscience, pour qu'il y ait des choses changent maintenant.
C'est ce que l'on souhaite fortement. Après, on n'a pas. Après, j'ai eu, en effet, suite à la présentation, j'ai eu 2, 3, 4 présidents. On dit super, on va voir, on va mettre les choses en place, etc. Voilà. Maintenant, certains ne sont pas obligés de venir me voir pour dire ce qu'ils vont le faire, bien évidemment. Mais je pense que tout le monde en a conscience et que tous les présidents de club veulent faire des efforts là-dessus. Maintenant, c'est juste ce que je disais tout à l'heure, c'est quel timing, à quel moment, mais en effet, il y a urgence.
Tiens, je voudrais qu'on écoute Olivier Azam, l'entraîneur des avants du Racing 92, qui nous dit la possibilité de s'exprimer maintenant. C'est aussi le rugby nouveau qui le permet. Denis, ça va t'intéresser.
La norme maintenant, c'est plutôt de parler et d'expliquer les choses et de passer devant sur plein de sujets. Et je trouve que c'est bien. On va dire la vision du mec dur, le mal alpha qui est destructible. On aimerait tous l'être, hein, mais ça n'existe pas, quoi. Donc oui, il faut parler, il faut en avoir conscience, il faut être solidaire. Et je pense que Pierre, il a été bien entouré, comme il le dit. Et moi, je suis très content de le revoir ce week-end sur le bord du terrain, même si c'est un concurrent direct pour nous. La qualif, quoi.
Denis, c'est la dernière, dernière séquence pour détruire complètement cette image du rugbyman, ouais, super-héros que toi tu as connu, que tu as dénoncé parfois, le mal alpha, le milieu viriliste, ne montre pas tes faiblesses. C'est quoi, c'est...
Non, mais on l'espère tous, moi le premier.
Toi, tu aurais aimé jouer dans ce rugby-là.
Oui, oui, en fait, bien sûr. Le premier, c'est vrai que ça a été tellement tabou, la santé des joueurs, santé mentale, je m'entends. Il y a 30-40 ans, on ne pouvait pas en parler, c'était interdit.
Parce que toi, tu en parles aujourd'hui du fait que tu as pu vivre des moments de dépression.
Mais bien sûr,
et tout,
mais moi, j'en ai vécu.
Tu pouvais pas en parler à l'époque.
Non. Même si moi, j'ai arrêté 6 mois, donc j'ai pu en parler un peu quand même, parce que j'ai traversé une période de lassitude, avec un vrai burn-out. Donc après, ça m'a aussi construit, mais c'était une vraie véritable épreuve, oui. Mais j'ai pas été, aimé être un peu plus accompagné, voilà.
Mais c'est pour ça que toi tu trouves ça encourageant là, ce que tu entends
pas
actuellement.
Encourageant,
toi, ça touche.
Pour moi, c'est pas encourageant, c'est indispensable.
C'est indispensable.
Ça veut dire que c'est une véritable raison d'état. Mais tu parlais de raison d'état. Oui. Moi, je pense que c'est une raison d'état.
Cause nationale, ouais.
Oui, complètement. Comme le suivi des sportifs de très haut niveau après leur carrière, c'est pareil, c'est la même chose. Alors, il y en a qui le subissent pendant la carrière. C'était mon cas, mais il y en a qui le subissent aussi après, et beaucoup, une grande partie.
Et Denis a utilisé le mot d'accompagnement. Il trouve qu'il n'a pas été assez accompagné, mais aujourd'hui l'accompagnement est essentiel.
Oui, c'est ça.
En effet. Alors nous, on faisait des accompagnements en effet individuels quand il y avait des demandes, etc. Mais aujourd'hui, en effet, à T15, on a des psychologues, des gens qui sont spécialistes de ça dans différents sports qui peuvent permettre d'accompagner les gens qui se sentent en difficulté. Et c'est là aussi que je dis qu'il faut que dans les clubs, on puisse avoir des sonnettes d'alarme, qu'on puisse dire, là aujourd'hui, attention, là tu n'y es pas, qu'il y ait des examens, je sais pas, peu importe, médicaux, autres, etc., pour dire...
Ouais, vous avez ces préconisations,
Exactement. Et nous, ça, c'est des préconisations sur lesquelles on tient.
On peut le dire, Didier, vous avez ces bilans de santé, une fois par an, concevoir des fiches de métier pour l'ensemble des staffs, pour que ce soit respecté.
Exactement, les fiches de métier, les fiches de poste, quoi. Les fiches de poste, c'est essentiel. Il n'y en a pas partout. Et les mecs, ça passe de l'un à l'autre. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Dès que, alors, on a des gens qui sont sous contrat dans les clubs sur des contrats de 35 heures, ils en font 47, 50 et ça ne pose pas de problème. Ils craquent, les mecs, quoi. C'est pas possible. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, il est complètement à l'envers.
Est-ce qu'il peut y avoir une obligation de déconnexion du travail? On sait que ça a existé, c'est un mot qui a été mis en place. Je sais que par exemple, nous dans l'entreprise, des fois on nous dit sur les mails de ne pas les regarder quand on est en vacances. Est-ce qu'on peut obliger les managers, sur les périodes de match de l'équipe de France par exemple, où il n'y a pas de match, d'avoir une obligation de déconnexion au travail?
La déconnexion au travail est importante, c'est clair et net. C'est clair et net. Après, en effet, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? C'est quelque chose à étudier, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est par rapport à l'entreprise. L'entreprise, les cadres, de temps en temps, ils déconnectent. C'est une obligation et c'est presque leur patron qui leur dit. Donc, je pense qu'il faut rentrer là-dessus. Mais ça, c'est plus, à la limite, la gestion personnelle, je pense aussi. Quand on est à ces postes-là, il faut qu'on soit capable, à un moment donné, d'avoir un peu de recul ou d'être accompagné sur ses propres pratiques pour savoir à quel moment on a besoin de prendre du recul ou de déconnecter, etc. Mais après, il ne faut pas non plus que lorsqu'on déconnecte, ce soit un reproche, quoi. Parce que ça arrive malheureusement, bien sûr, et tu n'as pas vu ça et tout. Alors peut-être qu'il faut apprendre à mieux déléguer, il faut peut-être encore mieux organiser, etc. Mais voilà, mais il y, y a des pistes, hein, c'est dans l'étude que l'on fait. En effet, il y a des pistes d'outils qui peuvent servir. Je crois qu'il faut qu'on aille là-dedans. Et puis après, que dans chacun des clubs, il y ait des pratiques qui se mettent en place.
Il y a même de la formation à la gestion de crise, hein, que vous préconisez.
Bien sûr.
Il y a une chose aussi qui alerte les managers, et puisqu'on en parle, nous, et qu'on est directement impliqués, c'est le relationnel jugé complexe avec les médias et les réseaux sociaux. Pour les managers sportifs disent ça. Et ben, Didier, pourquoi ne pas organiser ? Parce qu'on les croise quasiment tout le temps, en conférence de presse, en sortie de match, où il y a des choses souvent frontales. Il y a plus ou moins de relationnel avec les managers, selon les journalistes, selon les managers. Mais pourquoi, et c'est l'idée qu'on peut lancer ici, ne pas organiser des rencontres hors de tout ça, pour que eux comprennent, même s'ils le savent, comprennent plus nos objectifs, et que nous, on comprenne plus la dureté des choses pour eux.
Oui, pourquoi ? Enfin, ça peut être une bonne idée. Après, on a des formations média training aussi, ou sur lesquels on essaye de former les managers. Les managers sont formés à ça, etc. Mais en effet,
après, il y aura toujours des vilains journalistes comme Julien Landry, mais
bon. Ouais, mais voilà. Après, ça fait, c'est normal. C'est juste, c'est la vie.
Demandez à Fabien Gatti.
Mais voilà. Par rapport à ça, en effet, c'est peut-être bien de voir ça, mais il faudrait pouvoir mettre tous les journalistes sportifs de tous les médias ensemble. C'est peut-être un peu compliqué.
Non, mais par club, ça peut être par club.
À Montpellier, on le fait. Nous avons tous les deux, trois mois, un petit déjeuner avec Joanne Codulo.
Ouais, mais ça se fait hors
temps médiatique, où on vient le matin à 8h30. Joanne Codulo nous paye le café, le petit déjeuner. On discute de manière sans micro. Ça peut durer 2-3 heures. L'autre fois, il nous a fait visiter les vestiaires et les locaux du club. Et c'est quelque chose qu'en tout cas, à Montpellier, Joanne Codulo a mis en place.
Mais c'est quelque chose qui se fait dans beaucoup de clubs, dans beaucoup de sports aujourd'hui, hein, dans énormément de sports, que ce soit le basket, je l'ai connu de près au basket. En effet, les journalistes, tous les deux mois, quelques médias que ce soit, on les reçoit. Et voilà. Et puis après, en effet, il y a toutes les discussions informelles aussi qui font qu'on construit des relations aussi.
Bah, j'attends toujours l'invitation au petit déjeuner de Fabien Galtier.
Ce que j'allais te dire. Bon, bah, écoutez, en tout cas, ce qu'on a compris, c'est que l'important, c'est de pouvoir enfin prendre la parole,
en parler.
Ouais. C'est déjà une grosse avancée.
Non, mais on peut souligner, ce qu'a fait Pierre Mignoni. Pour des hommes comme ça, qui font patron, se mettre à nu de la sorte, le discours qu'il a eu, on peut le souligner.
C'est
d'une grande dignité.
Il y a un mot valise maintenant qu'on utilise tout le temps pour désigner ça, c'est les lanceurs d'alerte. Et je pense qu'on est un peu là quand même, parce que ça nous alerte tous et que ça nous permet d'avoir ce genre de discussion, des tables rondes aussi, pour pouvoir en parler.
Et ça fait preuve d'un grand professionnalisme aussi.
Exactement.
D'une grande responsabilité et d'un grand professionnalisme.
Exactement.
Bravo à Pierre.
Merci Didier. Merci Didier Louraud, président de Tech15.
Merci à vous.
Des entraîneurs évidemment très importants. C'est un sujet qui nous tient à cœur et donc
merci et bon match ce week-end.
Merci. On va voir.
On peut aller voir sur le site internet de Tech15. Il y a des choses comme ça, de tout ce qu'ils font. Je vous conseille d'aller voir.
Voilà. Et nous, on met pas du tout la pression ces entraîneurs. Si Joanne Codulo, mais pas l'équipe type face au Stade Toulousain.
Ah non, Joanne. Non.
Il a battu. Il
la mettra... nous entendent.
Il la mettra pas.
Voilà, qu'on a compris. T'es. Merci les amis. Merci Wilfried. Merci Denis. Merci Julien.
Merci à vous.
Rendez-vous vendredi pour l'apéro des poteaux. Abonnez-vous sur toutes les plateformes de podcast. Merci, à bientôt.